centralizētais eksāmens franču valodā. Augstākais mācību satura apguves līmenis.
Devoir de compréhension orale. Préparez-vous au devoir numéro 1. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
On change complètement de sujet maintenant, vacances ou pas, les délais sont toujours de plus en plus longs pour passer son permis de conduire. En attendant, on prend des leçons longtemps ça coûte cher. Conclusion, de plus en plus d'apprentis conducteurs utilisent des voitures à double commande. On peut en louer sans permis, on peut les conduire à côté d'un proche qui a au moins lui 3 ans de permis. À Caen, Axel Cariou, Xavier Tobi.
Après 26 heures de conduite dans une auto-école classique, Alban ne se sent pas encore prêt à passer son permis. Alors depuis quelques jours, il a opté pour une nouvelle solution, louer une voiture à double commande. Et c'est Odile, sa maman, qui joue aux monitrices.
Là, on a repris 5 leçons en dehors du forfait de l'auto-école. On en a eu pour 175 euros, ça fait 35 euros la leçon. L'autre jour, on a conduit 2 heures et j'en ai eu pour 15 euros. Ah, là, tu aurais dû rétrograder, cher ami.
Ça me permet d'avoir plus confiance en moi parce que j'ai pas un moniteur qui est froid et que je connais pas, parce que des fois il y a des moniteurs qui parlent limite pas, alors là j'ai ma mère donc je suis plus rassuré.
Et la formule connaît un vrai succès. Ce loueur officie depuis un an et déjà 900 candidats lui ont fait appel, séduits par la grande flexibilité du système.
Quand j'étais en auto-école, j'ai dû attendre un mois pour avoir mon premier rendez-vous et en plus c'était un par semaine. Je pense que c'est pas suffisant pour progresser rapidement. Là, je conduis tous les jours.
Les véhicules sont alloués 24 heures sur 24. Seule contrainte, l'accompagnateur doit avoir au moins 3 ans de permis. Il ne s'agit pas de remplacer l'auto-école, mais de parfaire son expérience.
En école classique, le taux de réussite moyen en France est de 55%. Donc si on fait de la complémentarité avec un peu d'accompagnement, les taux dépassent les 80.
D'abord méfiante face à cette nouvelle concurrence, certaines auto-écoles y dirigent désormais des élèves pour se délester. Rappelons que dans plusieurs régions, passer le permis peut prendre plus de 10 mois.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
On change complètement de sujet maintenant, vacances ou pas, les délais sont toujours de plus en plus longs pour passer son permis de conduire. En attendant, on prend des leçons longtemps ça coûte cher. Conclusion, de plus en plus d'apprentis conducteurs utilisent des voitures à double commande. On peut en louer sans permis, on peut les conduire à côté d'un proche qui a au moins, lui, 3 ans de permis. À Caen, Axel Cariou, Xavier Tobie.
Après 26 heures de conduite dans une auto-école classique, Alban ne se sent pas encore prêt à passer son permis. Alors depuis quelques jours, il a opté pour une nouvelle solution, louer une voiture à double commande. Et c'est Odile, sa maman, qui joue aux monitrices.
Là, on a repris 5 leçons en dehors du forfait de l'auto-école. On en a eu pour 175 euros, ça fait 35 € la leçon. L'autre jour, on a conduit 2 heures et j'en ai eu pour 15 €. Ah, là, tu aurais dû rétrograder, cher ami.
Ça me permet d'avoir plus confiance en moi parce que j'ai pas un moniteur qui est froid et que je connais pas, parce que des fois il y a des moniteurs qui parlent limite pas, alors là j'ai ma mère donc je suis plus rassuré.
Et la formule connaît un vrai succès. Ce loueur officie depuis 1 an et déjà 900 candidats lui ont fait appel, séduits par la grande flexibilité du système.
Quand j'étais en auto-école, j'ai dû attendre 1 mois pour avoir mon premier rendez-vous et en plus c'était 1 par semaine. Je pense que c'est pas suffisant pour progresser rapidement. Là, je conduis tous les jours.
Les véhicules sont alloués 24 heures sur 24. Seule contrainte, l'accompagnateur doit avoir au moins 3 ans de permis. Il ne s'agit pas de remplacer l'auto-école, mais de parfaire son expérience.
En école classique, le taux de réussite moyen en France est de 55%. Donc si on fait de la complémentarité avec un peu d'accompagnement, les taux dépassent les 80.
D'abord méfiante face à cette nouvelle concurrence, certaines auto-écoles y dirigent désormais des élèves pour se délester. Rappelons que dans plusieurs régions, passer le permis peut prendre plus de 10 mois.
Vous avez 1 minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 2. Vous avez 1 minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
Éviter la chaleur, ou alors ils vont se coucher plus tard la veille parce que ils doivent préparer les bagages, ils n'ont pas anticipé, ils vont préparer leur itinéraire. Donc c'est vrai que il y a un changement d'habitude au niveau du temps de sommeil, et ce changement d'habitude, il peut être risqué parce
qu'il n'est pas anodin. C'est pas raisonnable.
Non, tout à fait, parce que il nous rend encore plus sujet à la somnolence au volant. Et ce qu'il faut savoir, ce que j'aimerais rappeler, c'est que la somnolence, c'est la première cause d'accident mortel sur autoroute. C'est pas la vitesse, c'est pas le téléphone. Donc, faire changer ses habitudes de sommeil, ça peut être un comportement vraiment risqué.
Mais on se dit, la nuit, il y a moins de monde, donc c'est moins dangereux. C'est une idée reçue, c'est une idée fausse.
C'est une idée fausse. Il y a d'ailleurs un horaire qu'il vaut mieux éviter parce qu'on est plus sujet à la somnolence, donc de prendre le départ entre 2h et 5h du matin. La nuit, c'est dangereux. En fait, surtout ce qui est dangereux, c'est de réduire son temps de sommeil avant de prendre le départ. La nuit qui va précéder le départ, en fait, ça doit être une nuit réparatrice.
C'est la nuit d'avant, en fait, c'est ça. Oui. 24 heures avant, il faut très bien dormir.
Il faut très bien dormir. Il faut dormir au moins 7 heures pour prendre la route en forme, pour pas ressentir ces épisodes de somnolence ou la fatigue. Donc, c'est très important de ne pas la raccourcir et de dormir suffisamment pour être serein tout au long du trajet. On est souvent, au moment des grands départs en vacances, on est souvent sur des trajets longs de plus de 500 km. Où la somnolence peut se faire ressentir à tout moment, donc c'est important de partir reposer.
Vous nous dites surtout pas, donc, entre 2h et 5h du matin, enfin autant que possible. Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux, c'est de partir tard le soir ou tôt le matin après une nuit ?
En fait, on peut partir tôt à partir du moment où on a bien dormi. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est ce que je disais, c'est avoir les bons réflexes. C'est-à-dire, par exemple, si vous partez samedi en congé, on est mardi, commencez déjà à préparer votre valise, allez chercher la valise, mettez des affaires dedans. N'attendez pas la dernière minute pour tout préparer. Faites une liste pour la veille du départ, ne pas être stressé, ne pas être en panique. Et du coup, vous couchez à l'heure habituel,
ouais,
bien dormir.
Parce qu'après tout s'enchaîne en fait, c'est parce qu'on n'a pas bien préparé les valises qu'on se dit que voilà, on va moins bien dormir
la
veille, on va
être stressé, on va se coucher plus tard, on va se lever plus tôt, ouais. Parce que voilà, comme je disais, on veut éviter les embouteillages. Souvent les Français sont pressés d'arriver sur place, ils se fixent parfois même une heure précise à laquelle ils souhaitent arriver, donc du coup tout ça, ça fait qu'on prend parfois des mauvaises habitudes. On pense pas toujours à s'arrêter, alors que c'est très important toutes les 2 heures de faire une pause, pas être trop pressé d'arriver sur son lieu de vacances. Faut faire des pauses pour tout simplement mettre un terme à la fatigue, ou en tout cas éviter un risque de somnolence.
Mais ça, les Français en sont bien conscients, hein. Je crois dans votre étude, ils ont parfaitement intégré l'idée qu'il fallait faire une pause souvent.
Alors tout à fait, ce qui est très positif et très intéressant, c'est qu'on a 94% des Français qui citent la pause comme une solution pour lutter contre
la
somnolence.
Alors ils la citent, mais est-ce qu'ils la font ?
Alors on a quand même 66% des Français qui ont le bon réflexe, la bonne réaction, qui quand ils ressentent...
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
éviter la chaleur, ou alors ils vont se coucher plus tard la veille parce que ils doivent préparer les bagages, ils n'ont pas anticipé, ils vont préparer leur itinéraire. Donc c'est vrai que il y a un changement d'habitude au niveau du temps de sommeil, et ce changement d'habitude, il peut être risqué parce
qu'il n'est pas anodin, c'est ça.
Il n'est pas anodin,
c'est pas raisonnable.
Non, tout à fait, parce que il nous rend encore plus sujet à la somnolence au volant. Et ce qu'il faut savoir, ce que j'aimerais rappeler, c'est que la somnolence, c'est la première cause d'accident mortel sur autoroute. C'est pas la vitesse, c'est pas le téléphone. Donc faire changer ses habitudes de sommeil, ça peut être un comportement vraiment risqué.
Mais on se dit, la nuit, il y a moins de monde, donc c'est moins dangereux. C'est une idée reçue, c'est une idée fausse.
C'est une idée fausse. Il y a d'ailleurs un horaire qu'il vaut mieux éviter parce qu'on est plus sujet à la somnolence, donc de prendre le départ entre 2h et 5h du matin. La nuit, c'est dangereux. En fait, surtout ce qui est dangereux, c'est de réduire son temps de sommeil avant de prendre le départ. La nuit qui va précéder le départ, en fait, ça doit être une nuit réparatrice.
C'est la nuit d'avant, en fait, c'est ça. Oui. 24 heures avant, il faut très bien dormir.
Il faut très bien dormir. Il faut dormir au moins 7 heures pour prendre la route en forme, pour pas ressentir ces épisodes de somnolence ou la fatigue. Donc, c'est très important de ne pas la raccourcir et de dormir suffisamment pour être serein tout au long du trajet. On est souvent, au moment des grands départs en vacances, on est souvent sur des trajets longs de plus de 500 km où la somnolence peut se faire ressentir à tout moment. Donc, c'est important de partir reposé.
Vous nous dites surtout pas, donc, entre 2h et 5h du matin, enfin, autant que possible. Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux? C'est de partir tard le soir ou tôt le matin après une nuit?
En fait, on peut partir tôt à partir du moment où on a bien dormi. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est ce que je disais, c'est avoir les bons réflexes. C'est-à-dire, par exemple, si vous partez samedi en congé, on est mardi, commencez déjà à préparer votre valise, allez chercher la valise, mettez des affaires dedans. N'attendez pas la dernière minute pour tout préparer. Faites une liste pour la veille du départ, ne pas être stressé, ne pas être en panique. Et du coup, vous couchez à l'heure habituel,
ouais,
bien dormir.
Parce qu'après, tout s'enchaîne, en fait. C'est parce qu'on n'a pas bien préparé les valises qu'on se dit que voilà, on va moins bien dormir
donc,
la veille.
Donc du coup, on se couche plus tard, on va se lever plus tôt, ouais. Parce que voilà, comme je disais, on veut éviter les embouteillages. Souvent, les Français sont pressés d'arriver sur place. Ils se fixent parfois même une heure précise à laquelle ils souhaitent arriver. Donc du coup, tout ça, ça fait qu'on prend parfois des mauvaises habitudes. On pense pas toujours à s'arrêter, alors que c'est très important toutes les deux heures de faire une pause. Pas être trop pressé d'arriver sur son lieu de vacances. Faut faire des pauses pour tout simplement mettre un terme à la fatigue, ou en tout cas éviter un risque de somnolence.
Mais ça, les Français en sont bien conscients, hein. Je crois dans votre étude, ils ont parfaitement intégré l'idée qu'il fallait faire une pause souvent.
Alors tout à fait, ce qui est très positif et très intéressant, c'est qu'on a 94% des Français qui citent la pause comme une solution pour lutter contre
la
somnolence.
Alors ils la citent, mais est-ce qu'ils la font?
Alors on a quand même 66% des Français qui ont le bon réflexe, la bonne réaction, qui quand ils ressentent...
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 3. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
La sécurité sociale a pour objectif de protéger les personnes qui résident en France face à certains événements qui surviennent tout au long de leur vie. Son budget est composé de dépenses, principalement sous la forme de prestations, et de recettes, alimentées en partie par les contributions. Les recettes sont gérées par la branche du recouvrement composée des URSSAF. Pour les dépenses, il existe quatre branches. La branche assurance maladie permet de couvrir les dépenses d'hospitalisation, de médicaments et consultations des professionnels de santé. La branche retraite prend en charge l'inscription des revenus sur le compte vieillesse de chacun tout au long de sa vie active, à partir des déclarations Internet des entreprises, ce qui permet ensuite de calculer le montant des retraites et de les verser. La branche accident du travail prend en charge les frais liés aux maladies professionnelles et aux accidents du travail. La branche famille verse différents types de prestations liées à la naissance, à la garde d'enfants, aux aides à l'éducation ou au logement, par exemple. Les agriculteurs, commerçants, artisans et certains salariés bénéficient d'une organisation spécifique, comme la Mutualité sociale agricole, MSA, ou le Régime social des indépendants, le RSI. Toutes les personnes qui résident en France contribuent au financement de la sécurité sociale qui, en retour, couvre toute la population. Le principe est celui du pot commun, fonctionnant par solidarité. Le montant de la contribution versée par chaque personne ne dépend pas de ses propres risques, mais de ses revenus. La sécurité sociale, par l'intermédiaire du versement des retraites et de la prise en charge des soins, a permis l'allongement de l'espérance de vie de 3 mois de plus par an depuis 20 ans. Ces progrès entraînent des difficultés de financement. L'allongement de la durée de vie implique des retraites plus longues et des dépenses de santé plus importantes, ce qui déséquilibre le système. Pour rééquilibrer le système, des mesures d'adaptation sont prises, notamment sur la durée de cotisation. La sécurité sociale développe également de nouveaux services, comme l'ouverture de places d'accueil pour les jeunes enfants, ce qui permet à leurs parents de continuer à travailler. Née il y a 70 ans, la sécurité sociale a permis aux Français de vivre plus, mais aussi mieux. Elle continuera à évoluer pour construire les services qui correspondent à leurs besoins.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
La sécurité sociale a pour objectif de protéger les personnes qui résident en France face à certains événements qui surviennent tout au long de leur vie. Son budget est composé de dépenses, principalement sous la forme de prestations, et de recettes, alimentées en partie par les contributions. Les recettes sont gérées par la branche du recouvrement composée des URSSAF. Pour les dépenses, il existe quatre branches. La branche assurance maladie permet de couvrir les dépenses d'hospitalisation, de médicaments et consultations des professionnels de santé. La branche retraite prend en charge l'inscription des revenus sur le compte vieillesse de chacun tout au long de sa vie active, à partir des déclarations Internet des entreprises, ce qui permet ensuite de calculer le montant des retraites et de les verser. La branche accident du travail prend en charge les frais liés aux maladies professionnelles et aux accidents du travail. La branche famille verse différents types de prestations liées à la naissance, à la garde d'enfants, aux aides à l'éducation ou au logement, par exemple. Les agriculteurs, commerçants, artisans et certains salariés bénéficient d'une organisation spécifique, comme la Mutualité sociale agricole, MSA, ou le Régime social des indépendants, le RSI. Toutes les personnes qui résident en France contribuent au financement de la Sécurité sociale qui, en retour, couvre toute la population. Le principe est celui du pot commun, fonctionnant par solidarité. Le montant de la contribution versée par chaque personne ne dépend pas de ses propres risques, mais de ses revenus. La Sécurité sociale, par l'intermédiaire du versement des retraites et de la prise en charge des soins, a permis l'allongement de l'espérance de vie de 3 mois de plus par an depuis 20 ans. Ces progrès entraînent des difficultés de financement. L'allongement de la durée de vie implique des retraites plus longues et des dépenses de santé plus importantes, ce qui déséquilibre le système. Pour rééquilibrer le système, des mesures d'adaptation sont prises, notamment sur la durée de cotisation. La Sécurité sociale développe également de nouveaux services, comme l'ouverture de places d'accueil pour les jeunes enfants, ce qui permet à leurs parents de continuer à travailler. Née il y a 70 ans, la Sécurité sociale a permis aux Français de vivre plus, mais aussi mieux. Elle continuera à évoluer pour construire les services qui correspondent à leurs besoins.
Vous avez 1 minute à votre disposition. Finissez le devoir.
Fin de l'épreuve de compréhension orale. Rendez vos devoirs au professeur.